Bonjour. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Et oui, j'espère que l'accent ne dérangera pas. Mais c'est l'accent qu'on connaît depuis presque 30 ans dans la province du Québec au Canada. Nous avons eu le privilège de servir le Seigneur dans le contexte québécois depuis 28 ans. Mais nous sommes vraiment encouragés de pouvoir vous visiter aujourd'hui et de partager la parole de Dieu avec vous. Dieu nous permet 4 semaines en France et on fait un petit voyage exploratoire dans le sens que nous cherchons la volonté de Dieu pour nos vies dans l'avenir. Et on prie par rapport à la possibilité de venir servir en France. On cherche tout simplement la direction de Dieu et on vous demanderait de prier pour nous. Mais quelle joie d'ouvrir la parole de Dieu, hein? Je vous invite à tourner dans Marc, l'Évangile selon Marc, chapitre 16, le dernier chapitre de l'Évangile selon Marc. Et nous allons lire le verset 15. Peut-être que je devrais vous dire juste avant de lire le verset, ou les deux versets que nous allons lire, que dans cette dernière section de ce dernier chapitre de Marc, il s'agit d'un résumé. Il y a un résumé de certaines apparitions de Jésus après sa résurrection. Ceci cadre tout à fait avec ce que nous voyons ailleurs dans la parole de Dieu. Nous savons qu'après la résurrection du Seigneur Jésus, il est apparu à plusieurs personnes, à beaucoup de gens, finalement. Actes, le premier chapitre, par exemple, nous dit que après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, dans cette section de Marc, on a un résumé de certaines de ces apparitions. Et puis, on arrive au verset 15 et nous lisons ceci. « Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Prions. Seigneur, merci pour le grand privilège que nous avons encore une fois d'ouvrir ta sainte parole, de la lire, de la méditer. Et Seigneur, nous demandons que ton Saint-Esprit puisse faire application de ta parole à chacun de nos cœurs ce matin. Seigneur, ne permets pas que le messager devienne en quelque façon que ce soit un empêchement à ce message de ta parole. Utilise ta parole pour nous encourager, pour nous convaincre. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus comme son sauveur personnel, je demande de travailler dans son cœur, de l'amener à toi-même avant qu'il ne soit trop tard. On prie ces choses dans le saint nom de notre bien-aimé sauveur Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai décidé devant le Seigneur de vous apporter un message que je considère comme étant un message assez simple. Donc, nous allons tout simplement parler de l'Évangile. On va tout simplement regarder un vrai résumé de ce qu'on voit surtout dans les Évangiles. Sur ce qu'on pourrait appeler la mission que Dieu ou le Seigneur Jésus a confiée à ses serviteurs, spécifiquement à ses disciples, mais on comprend aussi que c'est la mission qui est confiée à l'Église de Jésus-Christ. Avant qu'il remonte au ciel, il a laissé cette mission, il a confié cette mission à ses disciples. Vous savez, lorsque nous lisons les évangiles, on voit que, et quand je parle des évangiles, je parle évidemment de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et nous voyons souvent des passages parallèles. Et c'est en examinant chacun de ces passages que nous arrivons à une meilleure compréhension de certains événements en faisant la comparaison. Parce qu'un certain évangéliste va apporter des détails que l'autre va omettre, ou bien l'autre va apporter des détails que les autres vont omettre. Et il y a au moins 5 références dans les évangiles à cette mission qui est confiée aux disciples de Jésus-Christ. Au moins 5. Les 5 références se rapportent probablement à 3 occasions différentes. Il y a, par exemple, dans Jean 20 et le verset 21, le Seigneur Jésus il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et on pense que le Seigneur Jésus aurait dit cela, il aurait dit cela à ses disciples le soir même de sa résurrection. C'est comme dimanche soir, après sa résurrection. Il y a aussi des occasions plus tard en Galilée où on lit, par exemple, Matthieu 28, 19 à 20, un passage que vous connaissez probablement par cœur. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et on croit que ce serait le même moment chronologique, ou à peu près, où le Seigneur leur dit ce qui est écrit ici dans Marc chapitre 16. Mais il y a aussi, un petit peu plus tard, juste avant que le Seigneur Jésus remonte au ciel, on lit dans Luc et au début des Actes des Apôtres, des passages. Et on comprend que Luc, il écrit l'histoire de la vie de Jésus, puis dans les Actes des Apôtres, il continue à écrire l'histoire du début de l'Église. C'est le même auteur, Luc, inspiré par le Saint-Esprit. Mais dans Actes, le premier chapitre, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on n'a pas lu toutes les références, mais il y en a au moins 5 où le Seigneur Jésus il confie cette mission à l'Église. Et ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est de faire, comme j'ai dit, une sorte de résumé en nous basant sur, en nous appuyant sur ce qui est amené dans Marc. Marc est souvent l'évangéliste qui va résumer qui va mettre les événements en plus, on dirait au Québec, en capsule. Donc, nous allons baser sur ce qui est dit dans Marc 16, mais toujours en faisant référence aux autres passages aussi. 3 choses que j'aimerais qu'on regarde, 3 points principaux que j'aimerais qu'on aborde. J'aimerais vous les donner tout de suite. Pour répondre à la question, comment accomplir cette mission qui nous est confiée? J'aimerais juste dire pour ceux, parce que je sais qu'il y en a qui ont besoin du titre, si j'ai bien compris. Et je vais vous donner le titre. Le titre de la prédication, c'est « La mission qui nous est confiée ». Alors, vous pouvez l'écrire. « La mission qui nous est confiée ». On va essayer de répondre à cette question. Comment accomplir la mission? Il y a 3 choses. Premièrement, il faut maîtriser le message. Il faut bien connaître le message. Deuxièmement, il faut exercer un ministère. Il faut agir en exerçant un ministère, en assumant nos responsabilités pour agir. Et troisièmement, il faut faire confiance à Dieu pour les résultats. Il faut faire confiance à Dieu pour les résultats. Alors, la première chose que nous voulons voir pour comprendre comment accomplir la mission, encore une fois, c'est un résumé, mais je sais pas pour vous, mais pour moi, je sais que pour moi, ça fait du bien de revenir des fois sur des principes de base. Ça nous réchauffe le cœur et ça nous encourage dans le Seigneur. Si nous allons aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, comme il nous dit dans le verset 15, il faut savoir ce que c'est que cette bonne nouvelle. Évidemment, je veux dire, ça va de soi. Hein? C'est tellement... c'est un point qui est tellement simple que peut-être que des fois, on passe par-dessus. On ne le dit même pas, mais il faut connaître la bonne nouvelle. Il faut savoir ce que c'est que la bonne nouvelle. Et vous savez ce qui veut dire, oui, le mot évangile en langue originale, c'est le mot euangelion qui veut dire littéralement, oui, quoi? Bonne nouvelle. Il faut garder l'accent là-dessus, sur cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Lorsqu'on regarde des passages comme en Corinthiens 15 et lorsqu'on lit avec soin les prédications des premiers prédicateurs de l'Évangile dans les Actes des Apôtres et lorsqu'on examine dans les Évangiles, évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient nous amener en plus de profondeur sur le sujet pour répondre à cette question. Mais si nous voulons vraiment rester avec ce qui est clairement révélé, ce qui est vraiment cette bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est tout simplement la bonne nouvelle du salut à travers le Seigneur Jésus-Christ. C'est le salut en Jésus ressuscité. Jésus qui est mort pour accomplir l'œuvre qui était nécessaire, que seul Jésus pouvait accomplir pour nous sur la croix, n'est-ce pas? Que seul l'agneau de Dieu pouvait accomplir. C'est le message de sa mort. Il est mort. Il a été enterré. Et il est ressuscité. Et c'est ce Jésus vivant qui peut sauver, qui peut pardonner. C'est ce Jésus vivant qui lance son invitation ouverte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est le Fils de Dieu vivant, une personne réelle qu'on peut connaître personnellement, n'est-ce pas, qui nous invite à venir à lui pour avoir la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est justement cette nouvelle que nous pouvons avoir la vie éternelle en lui. Mais il y a d'autres éléments qu'il faut comprendre aussi. Je veux dire, pour que la nouvelle soit pour nous une bonne nouvelle, il faut avoir compris que nous avons besoin de ce que Jésus a à nous offrir, n'est-ce pas? Et on sait bien que nous vivons à une époque où bien des gens, du moins dans l'Ouest, sont plus ou moins à l'aise matériellement, ou etc., etc. De plus en plus, les gens sont plus matérialistes et ont aussi la notion que l'être humain a la réponse à tout. Et ils sont bien, ils ne voient pas leurs besoins de la bonne nouvelle. Il ne se voit pas pécheur. Pour comprendre la bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle que l'humanité doit comprendre et accepter, n'est-ce pas? Et cette mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes séparés de Dieu sans Jésus-Christ. Nous sommes nés dans le péché. Et nous avons une nature pécheresse et nous sommes coupables parce que nous avons péché. Nous sommes par notre nature des pécheurs et nous avons péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 et le verset 23. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, il parle du premier homme, hein, Adam, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il parle de notre nature de péché. Romains 3, 23 parle du fait que nous avons tous commis des actes de péché. Nous sommes coupables, et comme il dit dans chapitre 3 de Romains, verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais pour que la nouvelle de ce merveilleux salut en Jésus soit une bonne nouvelle pour nous, il faut avoir compris et accepté avec humilité devant Dieu le Créateur cette mauvaise nouvelle, qu'en dehors de Jésus, nous sommes séparés de lui. Et que nous serons séparés de lui pendant toute l'éternité si on n'accepte pas l'invitation de Jésus de venir à lui. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Il parle, oui, de la mort physique, mais aussi de la mort éternelle, la mort spirituelle qui est la mort éternelle. Mais c'est ça, il y a quand même la bonne nouvelle, parce que si on termine le verset 23 de Romains 6, il dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Là, on comprend mieux la bonne nouvelle lorsqu'on comprend la mauvaise nouvelle. Hein? Romains 4, 25, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et le mot justification, rempli de sens qu'on fait un résumé. Mais il y a aussi un élément qui est rattaché avec cette mauvaise nouvelle pour pouvoir comprendre la bonne nouvelle, ce qui est comme, en tout cas, qui fait partie de toute cette réalité du fait que nous sommes pécheurs et que nous devons le comprendre, c'est que cette bonne nouvelle que nous avons annoncée aux gens comprend aussi l'élément de la repentance et du pardon des péchés. Dans Luc 24, si vous voulez tourner, c'est justement un de ces cinq références où nous voyons cette commission. Je continue à dire commission parce que c'est le mot anglais. Cette mission qui est confiée aux églises. Le verset 44, puis dans Luc 24, verset 44, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Puis il dit, « Vous êtes témoins de ces choses. » Alors, on voit l'importance de la notion de la repentance aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un Sauveur et qui nous invite à venir à lui, qui est vivant et qui veut nous sauver de nos péchés, veut nous pardonner de nos péchés. Mais joint à cette idée d'accepter ou de répondre à cette invitation, il y a aussi la notion que nous devons nous repentir de nos péchés. Et je crois qu'il y a souvent la notion aujourd'hui que on a tous à rajouter Jésus à notre vie et continuer comme si de rien n'était et tout va être beau. Mais la Bible parle de l'importance de la repentance. Et qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est le pécheur qui s'en va sur son chemin de tous les jours. Il vit sa vie de tous les jours le long du chemin, il se fait confronter à la réalité de son péché. Le Saint-Esprit de Dieu le convainc de cette réalité. Pour moi, c'est arrivé à l'âge de 10 ans. Je ne l'oublierai jamais le moment où le Saint-Esprit, en se servant de la parole, m'a convaincu que je n'étais pas correct, comme on dit au Québec, devant lui. J'avais besoin de lui. Ça fait que là, on s'en va sur notre chemin. Le Saint-Esprit de Dieu, il se sert de sa parole pour nous montrer que nous avons besoin de lui. Et en même temps, on comprend que c'est vers lui qu'il faut tourner pour avoir le salut. On comprend que en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Alors, par la grâce de Dieu et avec cette conviction et cette compréhension-là, puis là, et par la foi, on se détourne du péché pour se tourner vers le Seigneur Jésus qui peut nous délivrer et nous sauver de notre péché et après nous accorder toutes les ressources en lui dont nous avons besoin pour lutter contre le péché et avoir la victoire contre le péché. C'est de changer de direction littéralement en lui et avec lui. C'est ce qu'on appelle une conversion aussi, n'est-ce pas? Et c'est ça que nous avons aussi à annoncer aux gens. Quelle est la clé? Il y a plusieurs clés, il y en a plusieurs. Mais quelle serait une clé pour maîtriser, on dit maîtriser l'évangile, le message que nous avons annoncé? Dans le passage que nous venons de lire, qu'est-ce que ça dit dans la dernière phrase? Il dit, vous êtes témoin de ces choses. Vous êtes témoin de ces choses. Et c'est ce que nous voyons dans Actes, premier chapitre, verset 8, où il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, et dans le cas du salut, a vécu. Il a vu, il a vécu ce message. Nous vivons au Canada depuis 28 ans. Nous vivons au Québec depuis 28 ans. J'ai grandi, ma femme a grandi en France, mais j'ai grandi dans le sud des États-Unis. Et dans le sud des États-Unis, on pensait qu'on avait l'hiver, qu'on connaissait l'hiver. Il neigeait, on recevait de la neige peut-être une fois, deux fois par année. Mais là, je peux vous dire que depuis 28 ans, je connais l'hiver. Parce qu'au Québec, il fait froid. Et je pourrais vous en parler, ma femme et moi, nous pourrions vous en parler l'hiver. On sait ce que c'est. On sait à quoi ça ressemble sortir de chez nous lorsqu'il fait moins 40 dehors. Oh, je l'ai bien dit, moins 40. Je l'ai vécu deux fois dans ma vie. La plupart du temps, il faisait seulement moins 25 ou moins 30. Mais je sais à quoi ça ressemble. Je sais ce que ça fait. Je sais quel effet ça peut avoir sur ma voiture. Je sais ce que c'est que de pelleter la neige à moins 25 avec des vents de 50 km à l'heure. Je l'ai vécu, je peux vous le décrire. Il y a des phénomènes qu'on voit que sans les avoir vécus, je veux dire, je sais ce que moins 25, moins 30, l'effet que ça peut avoir sur une rallonge. Est-ce qu'on dit une rallonge ici? Imaginez-vous, rallonge. C'est fait il y a des fils enrobés d'un genre de quoi, caoutchouc. Mais est-ce que vous savez ce que moins 25 fait au caoutchouc? On peut, là, ça devient comme un bâton, là, littéralement. Là, on peut le mettre dans l'air comme ça, puis même fouetter quelqu'un avec un bâton, ça devient tellement dur. Ah, vous n'avez jamais pensé à ça, hein? Mais il faut l'avoir vécu, voyez-vous. Et c'est un peu comme cela. Je pourrais continuer, je pourrais vous raconter l'hiver. Et les Amérindiens de notre coin au Québec, il y avait comme une dizaine de mots pour la neige. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de neige. Il y a la neige mouillée, il y a la neige sèche, il y a la neige fine, j'en passe. Tout cela pour dire que lorsque nous avons vécu quelque chose, on est capable d'en parler avec une certitude, avec une assurance. et avec, avec aussi de l'émotion selon le cas. J'avais entendu parler ce que c'était que devenir un père pour la première fois. Je ne peux jamais oublier le moment à l'hôpital où j'ai pris notre fille dans mes bras pour la première fois. Vous voyez, ça, ce n'est pas fabriqué. Là. C'est... Et les pères, vous savez de quoi je parle. De prendre ma fille dans mes mains, entre les bras pour la première fois, et de mettre mon doigt à côté de son visage et à côté de sa main. Et lorsqu'elle a pris sa main, elle a pris mon doigt, elle a fait ça. Bon, il y en a qui disent, ben, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, c'était juste un genre de réflexe. D'accord, ben, je sais que ce n'était pas juste un réflexe. c'est émotionnel. J'en parle avec émotion parce que c'est quelque chose qui est devenu réel pour moi. Et savez-vous quelque chose? C'est la même chose. Lorsque je me souviens de la journée où j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur, tout ce qui s'est passé dans mon cœur, tout ce que Dieu a fait en moi, le poids qui m'a été enlevé, le message que j'ai compris à ce moment-là, que Dieu a utilisé dans mon cœur pour me convaincre, je suis capable d'en parler parce que je l'ai vécu, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour nous. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous avez vécu une vraie conversion? Est-ce que vous avez accepté la bonne nouvelle? Avez-vous cru en lui? Sinon, j'espère que vous le ferez avant qu'il ne soit trop tard. Et je dois continuer. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'on pourrait regarder, mais passons au deuxième point. Le premier point, c'est qu'il faut, si nous allons accomplir cette mission que Dieu nous a accordée, nous devons maîtriser le message. Et le deuxième point, c'est qu'on va avoir du travail à accomplir aussi. Il va falloir exercer un ministère. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 15? Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez! Allez, il y a un verbe. Allez, il y a une exhortation. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, il y a une action délibérée de notre part. Nous devons aller, nous devons agir. On voit la même chose dans Matthieu 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Littéralement, ça veut dire en allant. Faites de toutes les nations des disciples, mais il faut agir. Jean 29, le verset 21, « Je vous envoie. » Donc, il y a une action. Nous devons être prêts à faire quelque chose. La bonne nouvelle ne se répand pas tout seul. Il faut des gens pour répandre la bonne nouvelle. Et il faut aussi un terrain, évidemment. Il dit dans le verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle où? À toute la création. » Ça englobe pas mal tout le monde. Hein? Il y a des passages qui sont encore plus clairs dans Actes 1, 8, où il dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'était leur ville. La Judée, c'était leur province. La Samarie, c'était la province ou la région voisine. Puis jusqu'aux extrémités de la terre, ça veut dire partout. Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples, ça veut dire toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues. Or, nous avons une grande responsabilité et nous avons un champ énorme, n'est-ce pas? Alors, c'est ça qui nous est confié. Mais comment faire? Comment faire? Comment faire en tant qu'individu, membre d'une église à Fréjus, dans le sud de la France? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'individuel? Nous devons parler. Nous devons annoncer. Nous devons proclamer. Il faut parler. avec des gens chez qui Dieu ouvre une porte. Mais il faut demander, surtout aujourd'hui, je trouve que, en tout cas dans notre contexte au Québec, à l'ère moderne, il faut que Dieu nous ouvre des portes, parce que, en tout cas dans notre contexte, nous avons affaire avec tellement de gens qui ne veulent vraiment rien savoir. Et on prie. Et on prie, il y a beaucoup qu'on pourrait dire là-dessus aussi, l'importance de la prière dans l'évangélisation. Mais nous prions que Dieu nous amène vers les gens qui vont entendre, qui vont écouter. Et nous demandons à Dieu de nous donner la patience dans les contacts que nous avons avec les gens. Et d'avoir aussi la sagesse pour voir lorsque Dieu est en train de nous ouvrir une porte pour parler pour lui. Des fois, moi je trouve que pour moi personnellement, c'est ce qui me manque souvent, c'est d'être capable de voir que Dieu est en train de m'ouvrir une porte et de saisir l'occasion pour parler pour lui. De parler d'une manière directe et aussi le fait, évidemment, on peut partager des dépliants et des Bibles, c'est un moyen au Québec que nous avons trouvé au cours des années. Nous aimons beaucoup pouvoir donner une Bible à quelqu'un avec qui on a entretenu, on a parlé depuis longtemps et qui accepte la Bible, il commence à lire la Bible et on continue le contact et on lui demande comment tu trouves ce que tu es en train de lire? As-tu des questions? Etc. etc. Et on prie que Dieu permet que ça. Ça puisse aboutir à un moment donné à une étude personnelle chez lui, la Bible ouverte. Oh, Dieu ouvre les portes. Mais ça, c'est plus des manières directes. Et vous connaissez votre situation, votre réalité ici, mais c'est d'être prêt à parler pour lui. Mais aussi des manières indirectes, comme pour aider ceux qui annoncent dans le contexte d'une église. Chez nous, ça a été très important dans les églises où on a une crèche, on appelle ça une garderie chez nous, mais une crèche, d'aider à ce niveau-là pour libérer les visiteurs qui viennent et pour qu'ils puissent entendre la prédication, s'occuper aussi des lieux être impliqué à ce niveau-là pour aider à s'occuper des lieux, pour garder les lieux propres et en état de recevoir les visiteurs qui viennent pour entendre la prédication. Il y a beaucoup d'autres éléments comme cela qu'on pourrait amener et auxquels on ne pense pas toujours, mais qui sont importants pour contribuer à ce que les gens entendent la prédication de l'Évangile. Mais il y a aussi, évidemment, des moyens plus en accord avec quelques contextes qu'on voit dans le Nouveau Testament, et c'est de littéralement envoyer des missionnaires ou bien partir nous autres mêmes en mission. Romains chapitre 10, le verset 15. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et en tant que membres d'Église, nous pouvons prier pour ceux qui sont envoyés. Nous pouvons contribuer financièrement pour les envoyer. Et parfois, Dieu peut nous envoyer nous autres mêmes. Il faut être toujours ouvert à cette possibilité. Maintenant, troisième point que je voulais regarder, on a vu l'importance de maîtriser le message. Nous avons vu que nous devons être prêts à agir. Mais il y a aussi un troisième point qui est très réconfortant, je trouve. C'est qu'il faut faire confiance à Dieu pour les résultats. Et c'est un point qui peut être plus ou moins clair dans notre texte. Mais lorsque nous regardons les autres références parallèles, ça devient plus clair, et surtout lorsqu'on les compare avec ce que nous voyons dans les Actes des apôtres. Certains vont croire. Romains chapitre 1, le verset 16. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu. Quel réconfort que de savoir que, d'accord, je dois être fidèle, Je dois obéir à ce que nous venons de voir. Dans le deuxième point, je dois agir. Mais en bout de ligne, c'est le message que nous partageons avec les gens que Dieu utilise pour convaincre les cœurs des gens qui nous écoutent. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un grand réconfort, surtout à l'ère moderne. Ah oui. Il y a aussi un passage qui a été pour moi un grand réconfort lorsque Dieu dit à Paul qu'il avait prêché à Athènes et il y avait eu quelques sauvés, quelques conversions. On a l'impression qu'il n'y en a pas eu beaucoup et en tout cas, s'il y a une église qui a été établie à Athènes, on n'est pas au courant. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu d'église vraiment à Athènes. Mais il y a eu quelques-uns qui ont cru. Paul quitte Athènes, il s'installe à Corinthe. Et rendu à Corinthe, il commence à enseigner. Il y en a qui croient. Et on a comme peut-être l'impression, il y en a qui ont dit dans les commentateurs que peut-être que Paul était un petit peu découragé suite à son expérience à Athènes. On ne sait pas. Mais le Seigneur lui dit dans Actes chapitre 18, le verset 9, il dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle. Ne crains point, mais parle. Et ne te tais point, car je suis avec toi. » Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Quel réconfort! On annonce l'Évangile et Dieu va honorer sa parole. N'est-ce pas réconfortant de savoir que Dieu va travailler par sa parole dans le cœur des gens? Un autre élément en ce qui concerne les résultats, je pense qu'il est important de souligner que oui, on voit dans les évangiles que il est clair que Paul annonçait l'évangile dans les marchés. Il est clair qu'il y avait un enseignement, une prédication qui était donnée. On a fait référence à Athènes. À Athènes, ils discutaient ouvertement et il y avait des prédications ouvertes. Et on comprend que évidemment il faut le faire, il faut faire cela. C'est un moyen qui est clairement été utilisé dans la parole. Et aujourd'hui on a la radio, on a Internet, on a toutes sortes de moyens où on a le privilège de semer la semence comme ça. Mais il y a un accent aussi qui est mis sur l'individu dans la parole de Dieu. L'Évangile selon Jean. Dans l'Évangile selon Jean, ça revient souvent. Le Seigneur Jésus assis à côté de la femme samaritaine. Bon exemple. Beaucoup d'autres exemples. Nicodème qui vient à Jésus par nuit. L'accent sur les individus. Et il est intéressant de constater dans le verset 16, ça dit « Celui, ça c'est l'individu, chaque individu, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. On doit apprendre à aimer, à investir aussi dans les vies des individus. Un peu comme j'ai mentionné plus tôt, être prêt à, devant le Seigneur, à être patient aussi avec les gens, en apprenant à les connaître et pour pouvoir leur partager la parole. Et il y a un grand accent qui est mis là-dessus dans la parole de Dieu. Qu'en est-il du baptême dans le verset 16? Il est vrai que certains se sont servis du verset 16 pour dire que sans le baptême, on ne peut pas être sauvé. Est-ce que c'est juste? Mais absolument pas. Absolument pas dire qu'il faut être baptisé pour être sauvé. Ça serait d'aller directement à l'encontre de tout ce qui est enseigné ailleurs dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il est clair dans ce passage que ce qui condamne, c'est de ne pas croire, n'est-ce pas? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. On est sauvé par la foi, n'est-ce pas? Et uniquement par la foi. Évidemment, ce qui la norme, ce qui est clair dans la parole, c'est que celui qui accepte Christ accepte aussi le baptême. Il accepte le baptême dans l'eau, car le baptême dans l'eau est une confession publique de son union personnelle avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. La même soumission de cœur qui l'amène à croire en Jésus pour le salut l'amène aussi à se faire baptiser, à cette profession publique. Mais il est clair que ce n'est pas le salut qui sauve, c'est le Christ ressuscité qui sauve. Alors, il y en a qui vont croire. Celui qui croira, il y en a qui vont croire, mais il y en a qui vont refuser de croire aussi. Et on comprend que c'est comme ça. Et on laisse tout cela entre les mains de Dieu. Sachant que, et réconforté par cette assurance que notre responsabilité, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Avec amour envers les perdus, tout comme le Seigneur Jésus avait l'amour envers les perdus. Et aussi, en se rappelant ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 28, « Voici, je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Quel réconfort, n'est-ce pas? Nous avons sa présence pour accomplir cette mission qui nous est confiée, que Dieu nous donne la grâce de l'accomplir avec un cœur dévoué, engagé envers lui, par amour envers lui, un amour qui est amour en retour, un amour qui existe parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, n'est-ce pas? Mm. Quelle bénédiction d'être avec vous ce matin. Merci. Amen. Mm.